Est-ce bien de faire du mal à quelqu'un ? La punition est-elle nécessaire à la justice ? L'incarcération, une solution acceptable au problème de la délinquance ? Nous nous interrogerons principalement sur la prison. Ce n'est pas sous l'angle de ses conditions de vie que nous l'aborderons, mais sous celui de sa raison d'être, le châtiment. Personne n'ose plus dire, comme au XIXe siècle, qu'elle permet aux bandits de s'amender. Elle ne sert qu'à une seule chose, qu'elle réussit d'ailleurs fort bien, punir. Mais punir, est-il utile ? À qui ? Même les plus timides réformateurs se heurtent à cette évidence. Adoucir les cruautés de l'incarcération s'oppose forcément à son principe. Elle est une peine, elle est faite et uniquement faite pour punir le coupable, pour lui être pénible. Car le droit pénal, par définition, est fondé sur la peine. Une peine est une souffrance qu'on inflige. Est-il raisonnable d'ajouter du mal à un mal ? Platon, par la bouche de Socrate, dénonçait déjà dans Criton l'inadéquation d'une telle réponse. On n'a pas beaucoup avancé depuis. J'entends bien que les victimes réclament la punition du coupable. On verra que les abolitionnistes insistent particulièrement pour qu'on rende justice à la victime en tant qu'à l'accusé. Aujourd'hui, dans un procès, la victime craint d'être jugée, crainte parfaitement légitime, car jugée, elle l'est. Est-elle bonne dans son rôle ? Fait-elle la victime comme il faut ? Est-elle la justification de la cruauté qu'on s'apprête à faire subir à l'accusé ? Le spectacle de sa souffrance doit être à la hauteur. Voilà, c'est juste le tout début d'un livre de Catherine Becker, qui s'appelle « Pourquoi faudrait-il punir ?» sur l'abolition du système pénal. Et ça nous permet d'introduire ce qui va suivre, c'est-à-dire que pour continuer un petit peu avec ce thème des privilèges qui a émergé un peu au cours de cette émission, on voulait vous parler des prisons.
Oui, c'est ça, des privilèges et aussi de la répression qui est liée distinctement dans ce contexte et autres, en fait.
Et du coup, on va diffuser un son sur une révolte, un son plutôt qui revient sur quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, donc c'est en 1974, donc sur une révolte dans une prison à Avignon, et qui parle aussi du système pénal, du système carcéral en particulier. Et avant de diffuser ce morceau, donc ça sera en 4 épisodes et on va juste pouvoir passer le premier. On voulait lire un communiqué, donc une traduction d'un communiqué colombien. Je vais lire l'introduction de la traduction directement, comme ça va aller plus vite. Donc c'est « Colombie, ce ne fut pas une évasion massive, ce fut un massacre d'État. Depuis des semaines, la Colombie, comme le reste du monde, subit les effets de la pandémie de Covid-19. Depuis l'arrivée de l'épidémie dans la région, les détenus manifestent pour demander les libérations massives. Le 21 mars, dans plusieurs prisons, les détenus se sont levés et la réponse de l'administration a été la répression dans le sang. Fin mars, les premiers morts de l'épidémie étaient des détenus. » Et donc la traduction, qui elle aussi a été publiée sur le site de Rebellion, de ce communiqué de Acción Libertaria Estudiantil, donc organisation communiste libertaire, étudiante en Colombie. Et donc du coup, c'est sur les faits qui se sont produits le 21 mars.
Alors, dans le monde entier, les prisons brûlent et les cris des prisonniers et prisonnières se lèvent contre le système de domination carcérale. Dans les prisons du monde entier, la suspension des visites et la négligence des administrations pénitentiaires face à la situation sanitaire ont mené les détenus à protester collectivement contre les potentiels foyers de contagion massive. En Colombie, à la tombée de la nuit du samedi 21 mars, des hommes et des femmes de tout le pays ont fait résonner les prisons avec leurs cris de dignité, liberté, et justice. Au milieu de la panique globale due au Covid-19, elles et ils ont voulu interpeller cette même société qui les a condamnés, en grande majorité pour appartenir aux classes populaires. Elles et ils ont crié contre un système carcéral créé pour nier tous leurs droits. Face aux revendications justes des détenus, l'État a répondu comme il sait le mieux faire, par des balles et du sang. Ce massacre d'État se solde par 23 morts, ou mortes, dans la prison Modelo de Bogota et deux de plus dans la prison de Combita, dans le département de Boyaca. À ceci s'ajoutent plus de 80 blessés, selon les données officielles. Les messages de l'État, aux mains de l'administration pénitentiaire, éclairent. Deux points. La mort sera le prix de la lutte collective dans les prisons. Comme si de rien n'était, la ministre de la Justice a laissé entendre que l'opération ayant causé ce massacre s'était déroulée sous contrôle et fut couronnée de succès, proclamant qu'elle a permis d'empêcher les évasions criminelles. En réalité, tuer des prisonniers et prisonnières de manière indistincte, ne fut certainement pas le résultat d'une panique des gardiens. Ce fut une stratégie de répression visant à écraser la révolte, divisant les prisonnières entre elles, entre celles et ceux qui participent au mouvement de protestation et les autres, générant rancœur et incompréhension, imposant ainsi un état de terreur. Au-delà des assassinats terroristes par la torture et l'humiliation, l'INPEC, donc l'administration pénitentiaire, impose son pouvoir sur les corps des détenus. Cette situation pousse à l'extrême le rôle de la prison en tant qu'institution de domination des pauvres, des déviants et des racisés. Dans la Modelo, le 21 mars, les prisonnières n'étaient plus des personnes, mais des corps jetables à la merci de la violence sadique de l'administration et de la police. Est-ce qu'on on tourne la parole ? Ouais.
Hop. Ce meurtre, perpétré par l'État colombien, pourrait constituer l'un des pires massacres contre la population carcérale du pays de ces derniers temps, avec ceux commis par les paramilitaires entre 1999 et 2001 dans le Modelo. Pourtant, face à de tels événements, la presse grand public a consacré ses articles à la première mort colombienne du virus et a renforcé la rhétorique autoritaire de l'État. Incapable de reconnaître l'ampleur sans précédent du massacre perpétré par l'IMPEC, par l'INPEC, administration pénitentiaire. En fait, au moment de l'écriture de ce communiqué, les prisons avaient tué plus que le Covid-19 en Colombie. Si la société en temps normal méprise la vie des prisonniers, l'absence de réaction politique réduit les victimes à des vies sans importance. Dans la logique du capitalisme, seules les vies qui produisent dans le système marchand sont importantes. Et c'est en ce sens que les actes de barbarie du système pénitentiaire sont justifiés. Nous savons que la plupart des criminels se trouvent dans les rues et dans les grands bureaux où ils détiennent le pouvoir d'entreprises privées et du pouvoir public étatique. Les actions de protestation des prisonniers, ont abouti à la déclaration de l'état d'urgence pénitentiaire dans le pays, mesure grâce à laquelle entre 4 000 et 15 000 détenus pourraient être libérés des prisons. Une avance significative dans la réduction de la surpopulation carcérale qui garantit des conditions saines à ceux qui les habitent. Cela n'est pas dû au gouvernement qui insiste pour ignorer la réalité critique des prisons colombiennes. C'est une victoire du mouvement carcéral, des hommes et des femmes qui ont choisi de revendiquer leur dignité derrière les barreaux. Pour cette raison, nous voulons transmettre un message aux victimes du système carcéral qui se battent pour leur vie et leur dignité. Nous soutenons les mobilisations collectives et la défense légitime contre les homicides massifs de l'INPEC. Dans nos luttes, nous n'oublierons jamais celles et ceux qui ont été tués par l'administration pénitentiaire. Nous porterons toujours dans nos cœurs la douleur de cette répression qui nous laisse sans voix. Aux parents des victimes de ce massacre d'État, nous exprimons notre solidarité et notre affection. Nous accompagnons vos demandes de justice et de vérité. Avec le poids de la mort dans nos cœurs, nous faisons aussi nôtre leur perte. En hommage à Jason, assassiné par l'État le 21 mars 2020 à la prison de la Modelo, toujours dans nos cœurs et dans nos luttes, Acción Libertaria Estudiantil, Colombie.
Du coup, on enchaîne par le petit son de NTM, là. Est-ce la vie ou moi ? C'est ça ? Allez, et du coup, il faut allumer...
«
La période qui va de 1971 à 1974 est un moment charnière pour le système carcéral français. Cette époque, agitée par une multitude de mouvements, révoltes, mutineries, qui se développent et s'enchaînent dans quasiment toutes les prisons, aboutira à la refonte du système judiciaire.
Du coup, un petit problème, c'est le morceau sur les émeutes à Avignon.
Ne serait-ce que durant l'été 74, la chancellerie dénombre 89 mouvements, 11 prisons totalement ou partiellement détruites et 7 morts. Par l'ampleur de leur révolte, les prisonniers tentent de briser le silence auquel ils sont condamnés et imposent leur critique du système carcéral et judiciaire, aussi bien au niveau de leurs conditions de détention que du sens profond de l'enfermement. Tout en menant des actions collectives allant du refus de remontée de promenade à la destruction pure et simple de la prison, les prisonniers élaborent des plateformes de revendication. Ces dernières, pour être connues de l'extérieur, sont criées depuis les toits des bâtiments, puis sont enfin relayées par la presse. Le texte qui suit est un exemple de ces revendications élaborées par un collectif de prisonniers de Fleury-Mérogis.
Sommes-nous de la racaille, des bandits de grand chemin, des bêtes de la pègre? À travers la radio et la presse, nous sentons que les Français ignorent tout du monde pénitentiaire et de sa population. En janvier 1974, des détenus de la prison de Fleury-Mérogis ont formé une association, le Comité de Résistance Interne, CORÉIN. Notre but est de faire connaître à l'opinion publique ce qu'est la prison en 1974. Depuis la mi-juillet, on assiste à une explosion de violence et de contestation. Toutes les centrales et maisons d'arrêt de France se révoltent. Pourquoi soudainement une population que l'on ignorait en arrive à brûler ses établissements, à crier sa colère, à s'affronter aux forces de l'ordre? Il faudrait des heures pour énoncer tout ce qui ne va pas au sein des prisons. Si Fleury-Mérogis est une prison neuve, tout le reste est vieux, vétuste et insalubre. Nîmes, qui par exemple a été quasiment ravagée ces derniers jours, était une prison cage à poules, c'est-à-dire avec des bâtiments résistant aux années par la grâce du Saint-Esprit. Chaque détenu vivait dans une pièce grillagée de 2 mètres sur 2, couché sur une paillasse jetée dans un coin, dans une saleté indescriptible. Il faut donc savoir que toutes les prisons sont des bâtisses datant des siècles passés. Alors, en 1968, on a ouvert Fleury-Mérogis, dans l'espoir de supprimer Fresnes et la Santé. Malheureusement, il s'est avéré que Fleury ne suffirait pas, et l'on a gardé les deux autres. À Fleury, on s'est dit « Le progrès, c'est de faire une prison où tout sera automatique. » Résultat, la prison s'est robotisée. Pour ouvrir une porte de cellule, le surveillant appuie sur un bouton. Pour parler, on se sert d'un interphone. Conséquence, il n'y a aucun contact humain. Fleury a enfermé des hommes dans une cage électronique. D'autres problèmes sont très importants. La solitude. La majeure partie de la population est inoccupée. Autrement dit, la promenade terminée, nous restons 22 heures ou 23 heures enfermés dans une cellule. Aucun organisme n'est capable de résister à un tel isolement carcéral. On se suicide beaucoup dans les prisons. Le travail. Certains détenus ont la possibilité de travailler, soit pour l'administration, soit pour un concessionnaire. Ceux qui travaillent en atelier ou en cellule pour un concessionnaire ont un salaire mensuel allant de 100 francs à 300 francs. Donc l'administration profite honteusement du travail des détenus. En outre, n'oublions pas que ce salaire est diminué de 3 dixièmes pour les prévenus et de 6 dixièmes pour les condamnés. Autrement dit, un travailleur ne touche qu'un salaire dérisoire. Les parloirs. Un prévenu a la possibilité de voir sa famille de 1 à 3 fois par semaine pendant une demi-heure. Un condamné, une seule fois. Un parloir, c'est une pièce immense où détenus et familles se rencontrent dans un brouhaha inimaginable. La famille est assise sur un tabouret, le détenu sur un morceau de pierre scellé, et entre les deux, une grille, un carreau. Imaginez un peu lorsque nous sommes derrière ce carreau, dans l'impossibilité d'embrasser sa mère, sa femme, ou de serrer son enfant dans ses bras. 30 minutes de bonheur, mais aussi 30 minutes de calvaire. L'un et l'autre interrompus par un surveillant qui s'amusera du drame de la séparation et vous refusera 5 minutes de plus. La censure. Il est certain qu'en 1974, on peut écrire, correspondre avec l'extérieur et la famille, mais au prix d'une censure. Que celui qui lise ceci se demande s'il admettrait qu'un tiers, un maton, lise son courrier. À l'heure où l'on parle de respect de la vie privée, de chacun, dans les prisons, on s'ingénie à venir fouiller notre vie. Même pas la possibilité d'être en contact intime avec son correspondant. Le prétoire. Avec le mitard, cette institution reste à nos yeux la plus ignoble. Le tribunal dans les prisons. On va au prétoire lorsqu'un maton en a décidé ainsi. Les hautes instances de la prison sont là, assises devant vous. Trois ou quatre personnes, visage méchant, vous détaillent comme une pièce de tissu. une feuille de papier est placée devant vous. C'est le rapport, l'acte criminel que vous avez commis et qui justifiera une condamnation. Seul devant ces juges, comment pouvons-nous croire que nous ne sommes pas condamnés d'avance ? Le mitard, le cachot, la prison dans la prison. Pour mieux comprendre ce système concentrationnaire, décrivons le mitard de Fleury. C'est au quatrième étage du bâtiment Détroit. Environ 100 cellules de 2 mètres sur 1. Sans fenêtres, sans aération, des WC repoussants de saleté, et rien d'autre sinon l'emplacement d'une paillasse offerte pour la nuit. Des hommes punis peuvent y vivre pendant 45 jours, sans visite, sans parloir, sans courrier, dans la solitude et la crasse la plus complète, avec seulement une petite promenade dans une courette tout aussi isolée de 5 mètres sur 2. 7 pas dans un sens, 7 pas dans l'autre. 7 pas dans un sens. Les grâces. Lorsqu'un premier mouvement de révolte s'est déclaré en 1971, notamment à Toul, l'administration pénitentiaire a institué un système de grâces avec lequel elle espérait bien tenir à sa main les détenus. C'est ainsi que 3 mois de grâces par an sont prévus pour tout condamné. En fait, le principe est tout autre. Lors de votre incarcération, l'administration vous avertit que si vous êtes un garçon calme, elle s'arrangera pour que la grâce soit appliquée. Honnête, direz-vous. Mais être calme ici a un sens particulier, qui fait que nous avons appelé ce système le bâton et la carotte. Autrement dit, cela signifie pour nos gardiens, bouge pas, tais-toi, sois poli, rampe, mais si tu bouges, plus de grâce. La conditionnelle. Prenons un exemple. Un primaire a été condamné à 3 ans de prison ferme. La loi stipule alors qu'à la moitié de sa peine, la conditionnelle est étudiée, c'est-à-dire que l'on juge si vous êtes apte à être libéré avant la fin de la peine, sous condition. Une commission pénitentiaire et judiciaire étudie la possibilité d'une conditionnelle, seulement cela demande entre 3 et 6 mois. Ensuite, seulement si un avis favorable est émis, c'est le ministère qui propose une date de libération. Là encore, les délais d'attente sont aussi longs. Résultat, votre conditionnel est de 2 mois au lieu des 18 mois en théorie. Et jamais une explication n'est donnée sur des délais aussi longs. Hygiène. Quand on vit dans des bâtiments ancestraux, la population pénale est doublée d'une population animale grouillante. Si le temps des rats dans la soupe est fini, celui des cafards et des morpions demeure réalité quotidienne. Le linge de corps est changé une seule fois par semaine, les draps une fois par mois. Et avec cela, il n'est possible d'avoir qu'une douche par semaine quand il en a. Et quand cela marche. Service médical. De nombreuses polémiques ont déjà eu lieu entre détenus et médecins, car nous ne trouvions bien souvent chez ces gens que le souci d'être au service de l'administration pénitentiaire et non des détenus. Ce que nous revendiquons ? Pas de la pitié comme on le laisse croire. Non, simplement de ne pas être exclu de la société pendant la détention et après la détention. Certains journalistes de l'information écrite et parlée ont tenté d'amener l'explosion à un degré de bassesse inadmissible. À la santé, on se révoltait pour avoir la télévision en couleur. À Chalon-sur-Marne, parce que les pâtes étaient collantes. C'est honteux et nous le crions. Nos revendications se situent à un échelon beaucoup plus intelligent et nous allons le prouver. Des milliers d'hommes vivent en prison et restent marqués toute leur vie pour des délits mineurs que la loi condamne à quelques jours ou quelques semaines de prison. Pourquoi ne pas donner sa chance à celui qui a commis cet acte autrement qu'en croupissant entre 4 murs ? Donc, il faudrait laisser en liberté provisoire tous ceux qui sont aujourd'hui passibles de la correctionnelle pour délits mineurs. De 30 000, la population pénale descendrait à 15 000. Libre ou incarcéré, celui qui travaille est un ouvrier. Alors à travail égal, salaire égal. Il faut mettre fin aux abus des concessionnaires et de l'administration. En prison comme ailleurs, nous payons nos cigarettes, notre bière, nos journaux. 9 détenus sur 10 sont issus d'un milieu urbain, pauvre et ouvrier, dont l'instruction est superficielle et la formation professionnelle inexistante. Pourquoi donc ne pas créer des classes d'enseignement et de formation professionnelle au sein des prisons ? Cela permettrait à celui qui est libéré d'avoir appris un minimum au lieu de sortir totalement délaissé, sans savoir où aller et comment vivre. Si un détenu sur 2 est récidiviste, c'est exclusivement en raison de l'abandon total dans lequel on le laisse. Au sein des prisons, notre première revendication est l'abandon de l'univers carcéral et de la solitude. La réforme doit développer les rapports humains. Pour cela, il faut créer des activités pour ceux qui n'étudieront pas et ne travailleront pas, c'est-à-dire pour plus de la moitié de la population. Être en prison ne doit plus vouloir dire vivre comme une bête recluse. Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir des terrains de sport, des salles de jeux, de lecture? La censure du courrier aux familles doit être totalement abolie. Rien n'est plus normal que de pouvoir écrire sans être décortiqué par des matons. Nous ne sommes pas des espions. La possibilité de parloir libre doit être dès aujourd'hui étudiée. Il est inadmissible et inhumain de rester des mois ou des années sans pouvoir embrasser sa femme ou caresser son enfant. Dans l'immédiat, nous demandons à ce que les parloirs aient lieu tous les jours et qu'ils soient portés à une heure. Nous demandons à ce que tous les livres et les journaux soient autorisés sans aucune restriction, que chacun ne soit pas contraint de se laisser mourir de faim pour obtenir ce droit, comme notre camarade Patrick Noulet. Une fois pour toutes, les grâces conditionnelles et semi-libertés doivent être clairement et correctement offertes à chacun. Nous demandons que tout détenu ait droit à 3 mois de grâce par an, sans qu'il soit nécessaire de ramper devant l'administration, que la conditionnelle soit étudiée dans des délais brefs, et enfin, que les semi-libertés soient permises à tous ceux qui ont du travail et qui souhaitent le reprendre pendant l'incarcération. La prison ne doit plus être un lieu de répression. Un maton n'est pas un CRS. S'ils ne veulent plus être insultés et méprisés par les détenus, ils devront nous considérer comme des hommes, et non plus comme du bétail. Le mitard doit être définitivement aboli. Le régime nazi est mort en 1945, et des lieux concentrationnaires comme le mitard ne doivent plus exister. Souhaitons que nos cris d'espoir et de désespoir aient été entendus, sinon rien ne garantit que la révolte ne reprendra pas. Le Coréine.
Ce texte a été publié en septembre 1974 dans le journal des prisonniers du CAP. Le CAP, Comité d'action des prisonniers, créé en décembre 1972, sera une des expressions de l'auto-organisation des prisonniers. Dans un autre numéro, viendra s'ajouter aux revendications régulièrement exprimées, cette dernière.
Suppression de la prison. Ce point-là, amis, copains, camarades de toutes les tôles de cette foutue société, le Comité d'action des prisonniers a presque failli l'oublier, tant il semblait évident qu'il représente le point capital de notre opposition à l'emprisonnement comme forme de châtiment, de même que nous sommes contre les contraintes qui tentent à briser l'individu pour l'intégrer de force dans un moule social où ne se trouvent à l'aise que des hommes assez bêtes, à tous les sens du terme, pour aimer à marcher à quatre pattes. Ce disant, nous songeons à l'asile, à l'armée, à la plupart des collèges, à la majorité des familles et bien entendu aux usines, ainsi qu'à toutes les autres machines à broyer et à abrutir que l'on pourrait l'espace d'un instant oublier, la télévision par exemple. Ce point 12, conclusion majeure de notre manifeste, nous ne pouvions le passer sous silence sans risquer de laisser croire, à la lecture des 11 points précédents, que le comité d'action des prisonniers ne cherche rien d'autre qu'un aménagement des prisons actuelles. Ne paraître désirer qu'une amélioration de ces hauts lieux de la répression, ce serait tout simplement nous couper de la réalité en oubliant notre seule raison d'exister. Amis, copains, camarades, il est temps de s'unir, de refuser la culpabilité à sens unique dont nous chargent les pontes légalistes de cette société. Unissons-nous avec tous les exploités, tous les emprisonnés, ouvriers, immigrés, orphelins, handicapés, internés, etc. Ne cherchons plus à aménager nos conditions de survie. Refusons-les. C'est pourquoi le comité d'action des prisonniers appelle à un regroupement tous ceux qui n'entendent plus subir, mais qui désirent se battre.
Le gouvernement adopte en 1975 une large réforme pénitentiaire. Certaines des revendications des prisonniers aboutissent. Abolition effective des cages à poules, autorisation de la presse et du courrier sans limitation dans leur nombre, mais la censure reste effective dans les deux cas. Autorisation de la radio en cellule et de la télévision en salle collective, assouplissement des conditions d'obtention des parloirs et hausse de leur fréquence, baisse du prélèvement de l'administration pénitentiaire sur les salaires. Mais ces quelques améliorations des conditions de détention arrachées par les luttes restent précaires et incertaines dans leur finalité. Par exemple, les parloirs sans hygiaphone accordés en 72 sont à nouveau supprimés en 75 et la plupart de ces revendications sont encore exigées lors des révoltes actuelles. Chaque amélioration peut également devenir un moyen de pression, de chantage et être retirée à tout moment par des sanctions disciplinaires. Mais surtout, la réponse de l'État à l'explosion des prisons de 71 à 74 et la création des quartiers d'isolement en 72 et des quartiers de haute sécurité en 75. Ces véritables lieux de torture blanche ont pour objectif de briser, d'isoler toutes les personnes révoltées et d'étouffer ainsi la moindre tentative d'organisation. La décennie qui suivra sera cependant marquée par de très nombreuses luttes contre les QHS. Ils seront abolis en 1982, mais les quartiers d'isolement, en tout point identiques, existent encore.
Ah, c'était le début de... Ok. Et ben, donc ça, c'était le premier épisode d'un enregistrement de 4 épisodes autour de ces actions entre 71 et 74 dans les prisons françaises, et notamment à Avignon. Juste, moi, je voulais préciser que, du coup, dans le texte qui est lu, il parle de 30 000 personnes en prison en 74, et actuellement, on est plutôt autour de 70 000 personnes en 2016. Les chiffres de 2016, c'est plutôt 70 000 personnes, et je crois maintenant...
Pour 60 000 places ou 55 000 places, je crois.
Oui, voilà, le taux de suroccupation aussi était déjà largement supérieur à 100%. Et bah du coup, il est 14h, je crois. Hein.
Ouais, c'est ça.
Et bah, on va vous dire à demain.
On dit à demain, et on avait très envie de passer le son qui arrive. Tu veux le présenter?
Ouais, on avait envie de passer Est-ce la vie ou moi de NTM. Voilà. Pour vous laisser sur une note joyeuse. Et puis voilà, désolé à l'assaillant, on dépasse un petit peu de 5 minutes et on vous fait des bises. Ciao!
Tchou.
Ciao, ciao.
Ciao, à demain.
Effacer, mettre de côté tout ce que j'ai vécu, c'est le plus difficile à faire. Mais j'espère que cette période d'ombre aura fait la lumière sur ce que va devenir ma vie dans l'avenir, ce que je vais pouvoir faire dès que je vais sortir d'ici. La tête haute, mec, j'aurais payé ma dette. Je veux que l'on me respecte pas pour mes erreurs de parcours, mais pour mon utopique tentative de retour à une vie dite normale. Sachez que ça hante mes rêves et que pour moi c'est vital. J'en ai rêvé des tonnes et des tonnes de fois, mais est-ce la vie ou moi qui a décidé ça?
Mais est-ce la vie ou moi qui a décidé ça?
Calendrier déjà, pourtant rien n'a bougé. Plus de nouveaux, les mêmes têtes n'est pas réhabilité. C'était sûr, cela n'a pas du tout évolué. Sans ce tout parfum d'illusion de liberté qui gonfle en moi. Et là je crois que le monde m'ouvrira encore une fois ses bras. Irréconciliable avec la réalité, face aux exigences de la liberté. C'est moi seulement et immanquablement. C'est reparti comme avant, je vais où va le vent. Porté par mes potes qui m'engrènent, me suffoquent. Ça l'excuse donc juste pour me sentir au-dedans plus propre. Mais nous savons bien qu'il n'en est rien. Quoi qu'il advienne, j'ai taillé mon chemin. Je ne sais plus si c'est la vie ou moi qui a décidé ça. Pourtant, plein de certitudes montent en moi. La défaite en est une et la haine en est une. Notre ville seront mes apôtres. Apôtres perturbant mes choix, mes repères. Non, sur moi, plus rien n'a d'effet salutaire.
Mais est-ce la vie ou moi qui a décidé ça? Mais est-ce la vie ou moi qui a décidé ça? Mais est-ce la vie ou moi qui a décidé ça?
J'ai recouvré la vue, celle du prédateur par laquelle j'ai vu la perspective du bonheur. Erreur, je sais, mais la tentation fut plus forte. Brader ma liberté au risque de finir derrière ces portes ne sont pas les choses qui m'ont traversé l'esprit. Non, j'ai plutôt fonctionné sans faire le tri. J'aurais dû, c'est sûr, envisager de reconstruire ma vie. Mais j'ai caché toutes mes chances et mon énergie, ouais. Tout ça est fini, alors je parle. Ma vie s'est changée en cavale.
Une vie en transit, rien de plus infernal que d'être apeuré comme un animal. Chose que j'ai du mal à gérer car j'enrage de n'avoir compris. Pour tourner la page sur ces business dont je n'évaluais pas l'importance, comme celui qui fut l'ultime pour faire pencher la balance. Mais je passe sur les détails de cette histoire, sachez qu'il y a eu mort d'homme. Je vous prie de croire que pas un jour ne passe sans que ma mémoire ne ravive ce souvenir sans aucun trou noir. Le lieu, l'air et ces gestes de trop, oui, trop précipités pour que mon cerveau puisse gérer ces gestes de trop, ces gestes de trop. Et ce fut clos.
Mais est-ce la vie au moi? La vie au moi qui a laissé les sables? La vie, la vie au moi, mais est-ce la vie au moi qui a laissé les sables? Mais est-ce la vie au moi, mais est-ce la vie au moi qui a laissé les sables? Mais est-ce la vie au moi, mais est-ce la vie au moi qui a laissé les sables? Mais est-ce la vie au moi, mais est-ce la vie au moi qui a laissé les sables? La vie, la vie au moi, moi. Mais est-ce la vie au moi qui a laissé les sables? Mais est-ce la vie au moi? Mais est-ce la vie au moi qui a laissé les sables? Mais est-ce la vie au moi? Mais est-ce la vie au moi qui a laissé les sables? La vie au moi? Mais est-ce la vie au moi qui a laissé les sables? Mais est-ce
Voilà, c'est la fin du morceau de NTM. Et alors, on vient de recevoir un appel, sauf que ça n'a pas très bien marché. Du coup, désolé, je crois que le téléphone captait plus trop. Et ben, la personne qui a appelé, si elle nous entend, elle peut rappeler demain entre midi et 14h. Mais là, du coup, on va rendre l'antenne parce qu'il y a d'autres gens qui font d'autres trucs. Et voilà, ben, on se retrouve demain entre midi et 14h, même endroit. À bientôt et encore désolé pour la personne qui a essayé d'appeler. Salut !